Alors bonjour à vous tous, à ceux que j'ai pas salués en particulier, les autres aussi, hein, mais... Alors je voudrais nous inviter ce matin à considérer la parole. Et je commence par l'effacer. Par effacer celle qui est projetée. Et pour ce faire, je voudrais en fait poser trois jalons, trois paroles, et ensuite les ramasser ensemble. Ce sont essentiellement des textes de la Genèse que je lirai, des premiers chapitres. J'en projetterai des extraits. Au tout début de l'histoire humaine, eh bien, il y a une parole. C'est le Dieu créateur qui l'adresse à l'être humain. Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'ai envie de dire, ne considérons pas tout de suite la teneur de cette parole, mais considérons ce fait même qu'une parole soit donnée. Entre l'être humain et Dieu, la relation, en tout cas telle que le récit nous la rapporte, la relation se déploie, commence par le biais d'une parole. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé ces questions, mais on pourrait se les poser. Mais Dieu, en quelle langue est-ce qu'il parle ? On s'est posé la question, hein, c'est pas de la science-fiction. On s'est demandé, par exemple, si c'était l'hébreu. Parce que, après tout, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, donc voilà. Et puis on pourrait se demander aussi, mais qui est-ce qui a appris à parler à l'homme ? Comment l'homme a-t-il appris à parler ? Et dans la foulée, quel âge il avait, l'homme ? Et plusieurs ont pensé que l'homme était enfant à cette époque-là. Alors vous me direz, peut-être c'est des questions un peu étranges. D'autres diront peut-être trop naïves. Je vous invite à les mettre en suspens un instant. Premier jalon. Deuxième jalon, dans l'ordre du récit, en fait, on se rend compte, donc là j'étais au chapitre 2 de la Genèse, mais on se rend compte que ce n'est pas la première parole qui est associée à l'histoire humaine, qui est adressée à l'homme, à l'être humain. La première parole, nous la lisons un peu plus haut dans le récit, c'est au premier chapitre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Première parole adressée à l'homme. Et là encore, comme au chapitre 2, le rapport qui est entre l'être humain et Dieu apparaît comme tissé, comme organisé, comme raconté sous forme d'une parole donnée. Il y a une parole adressée. Il y a une relation qui est proposée, qui est engagée. Et si vous lisez ce qui précède, on se rend compte que c'est sous forme d'une bénédiction, puisque en disant cela, Dieu, lisons-nous, Dieu les bénit. Donc il dit du bien, il veut le bien. Et il l'exprime par une parole adressée aux humains, par un appel, et même par une mission. J'ai envie de penser que c'est d'autant plus important que dans le récit jusque-là, c'est la première fois que Dieu adresse la parole à quelqu'un ou quelque chose qu'il a créé. Il a créé la lumière, mais il n'a pas parlé à la lumière. Il n'a pas parlé, il a créé les eaux, il a créé les astres, il a créé des animaux, mais il ne leur a pas adressé de parole jusque-là. Donc la première parole qui soit adressée, elle est adressée à l'être humain. Et c'est pour bénir. La première parole que, comme êtres humains, nous entendons en lisant la Bible, en ouvrant la Bible, la première parole que nous entendons de la part de Dieu, c'est une parole de bénédiction. Et je me laisse aller à penser que peut-être c'est une parole du type de celle que beaucoup d'entre nous, beaucoup, beaucoup d'enfants, pas tous hélas, mais beaucoup d'enfants entendent de leur mère au moment de la naissance, quand après les avoir portés pendant ces 9 longs mois, enfin, elle les met au monde. Elle prend l'enfant dans ses bras, le pose délicatement sur elle, et elle parle. Et même si ce n'est pas dit dans les mots, littéralement, ce sont des paroles qui disent le plus souvent la joie ressentie, des paroles qui disent la bienvenue dans ce monde, une parole qui est un souhait de bonheur, qui est une promesse déjà d'attention. Et tout ça se fait donc par le truchement d'un geste, bien sûr, mais tout ça se fait, tout ça se donne aussi. Et avant même que la maman ait touché l'enfant, peut-être, par le truchement, par la médiation d'une parole. Donc, au tout début de l'histoire, il y a une parole. Et en fait, troisième et dernier jalon, si on remonte un peu encore dans le récit, en amont, on découvre qu'au tout début, non pas de l'histoire humaine, mais de l'histoire, au commencement, il y a une parole. Dieu dit que la lumière soit. Et ce n'est pas terminé, puisque la suite, la parole continue à intervenir. Dieu appela la lumière jour. Dieu place un vocable. Dieu, c'est le jour. Jour, c'est le premier mot du dictionnaire. Oups. Et là encore, on pourrait se demander, mais en quelle langue Dieu parle-t-il ? On pourrait se dire aussi, mais comment on sait qu'il a dit ça ? Il n'y a pas de magnétophone. Hein ? Et puis, et peut-être plus interrogeant, à qui Dieu s'adresse-t-il ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un ? Est-ce qu'il y avait quelque être pour l'entendre ? En tout cas, pas l'homme. Alors on peut imaginer qu'il y a des êtres que nous ne savons même pas imaginer, hein, qu'il est difficile même de qualifier d'être céleste, en l'occurrence parce que le ciel n'a pas été créé. Donc, mot céleste, bon. Donc peut-être il y a voilà, des anges, des... Mais même alors, pourquoi prononcer ces paroles ? Est-ce que Dieu est comme certains d'entre nous ? Moi, par exemple, ça m'arrive, hein, qui parle tout seul. Au moins à certains moments donnés. Pas toujours et partout, mais à certains moments donnés, oui. Et d'ailleurs, c'est la même question qu'on retrouve au chapitre 2, dans une autre parole de Dieu, entre parenthèses. Il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc il ne parle pas à l'homme en disant ça. À qui est-ce qu'il parle ? Et je reviens sur ce que je disais avant, des questions naïves. Peut-être. D'aucuns ajouteraient c'est des questions que c'est même pas la peine de se poser, parce que ce récit, c'est un récit naïf. Et ils pourraient rajouter, comme beaucoup de mythes anciens, et donc faut pas s'intéresser à ça, faut pas prendre tout ça au mot. Alors j'entends, et je suis tenté à cela et à nous tous, de suggérer que cette naïveté, si c'en est une, cette naïveté apparente, je vais dire ça comme ça, peut-être pourtant peut nous faire sentir quelque chose de plus profond. Je le crois en tout cas. n'est-il pas, ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il n'est pas significatif, porteur de sens, que l'émergence de la lumière fasse intervenir, dès le début, l'énoncé d'une parole? Et c'est vrai, en fait, de tout ce qui suit, parce que si on lit la suite du texte, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, on lit « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». Ce que j'ai envie de dire, c'est pas nécessaire, en fait, de faire état d'une parole. On aurait pu raconter l'histoire autrement. On pourrait écrire, alors je vais rayer le texte, si vous me permettez, provisoirement. On aurait pu écrire, eh bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa la lumière fut, Dieu vit la lumière, c'est très bien, jour 1. Et puis, on continue la lecture, Dieu fit une étendue, le ciel, jour 2, etc., etc. Pas besoin de parler d'une parole prononcée. Mais ça aurait été plus direct. Dieu créa la lumière, Dieu créa le ciel, Dieu créa... Bon. Mais non. L'émergence du cosmos nous est racontée en faisant intervenir des paroles. Pour nous raconter le commencement, pour nous raconter l'origine, j'ai envie de dire pour nous raconter l'originaire, ce qui est premier, c'est le langage de la parole qui est employé, qui est devant nous. Et je reviens aux deux premiers jalons. Pour nous raconter l'origine, l'originaire de l'humain, de son être et de sa relation à Dieu, c'est le lexique de la parole qui est employé. Soyez féconds, multipliez-vous. Mange librement. Et j'ajoute encore un dernier élément, ça ne va pas s'arrêter là non plus, parce que l'être humain, quand il est introduit dans sa relation aux animaux qui sont là, il est invité, étrangement, à leur donner des noms, à construire le dictionnaire. Donc lui aussi, à son tour, a énoncé une parole, a prononcé des paroles. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Comment il les nommerait. Afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Le dictionnaire s'enrichit. Le premier acte de l'humain, comme sujet, c'est de trouver et d'énoncer, des apostrophes, énoncer, un nom. Les relations font intervenir la parole, et au moment enfin pour Adam, où la femme apparaît, c'est au chapitre 2, Adam, l'homme, et c'est le deuxième acte que fait l'être humain comme sujet, c'est dans une phrase où il est sujet de la phrase. Son second acte comme sujet, eh bien là à nouveau, l'homme prononce une parole. Et c'est une parole qui est d'autant plus frappante qu'elle comporte en hébreu en tout cas un jeu de mots, je vous montre le texte, en français, rassurez-vous. Celle-ci sera appelée femme, en hébreu Isha, parce qu'elle a été prise... de l'homme, Ish. Donc il y a un jeu de mots, un jeu de paroles. Étonnante place de la parole. La création, la terre qui nous porte en ce moment même si on ne la voit pas sous nos pieds, mais elle est là, rassurez-vous, enfin, j'espère. L'air que nous respirons, plus ou moins péniblement à cause des masques, la création nous est présentée en lien à une parole dite. Elle tient à une parole dite. Elle est liée originellement, elle est liée originairement, indissociablement à une parole dite. La terre sur laquelle nous marcherons, pour aller voir les photos, pour ceux qui ne les ont pas vues, par exemple, l'arbre, que nous verrons en sortant dehors, l'herbe, la haie, qui est derrière moi, enfin qui est tout autour de moi et de nous, et tout, voilà. tout advient, tout cela est advenu à l'être et c'est même maintenu dans l'être en lien à une parole. La parole de toujours joue un rôle dans leur constitution et dans notre constitution. Parce que c'est la même chose de l'être humain. Depuis le premier homme, depuis le premier couple, chacun de nous, et chacun de nous depuis le ventre de notre maman à nous, est constitué par une parole. Une parole qui lui est adressée. Nous savons, je crois, que c'est l'expérience du tout petit, pour qui c'est la voix, et la voix de ceux qui vont l'accompagner, qui est déterminante. Ce sont les mots des parents qui vont l'accompagner et qui vont l'accompagner à être ce qu'il va être. Leurs mots, avant même que lui-même puisse en former, leurs mots vont constituer, vont accompagner des traces sensorielles qui vont former son intériorité, qui vont accompagner ses expériences. Je n'ai pas retrouvé la référence. Il faudrait que je retrouve le bouquin où c'est. Et je ne sais pas. Les bouquins sont tellement longs. Je ne sais pas où il est. Bon. Mais je crois me souvenir qu'au cours de l'histoire, justement, on se demandait quelle langue on parlait au début. Et on s'est dit que la langue qu'on parlait au début, c'est la langue que chacun parlerait spontanément si on ne lui en apprenait pas une autre. Et donc, on a fait l'expérience, sauf erreur de ma part, pour un groupe d'enfants, de les isoler de toute langue, de toute voix quasiment, pour voir, au bout d'un certain temps, quand ils auraient grandi, quelle langue ils allaient parler. Est-ce que ça allait être l'hébreu ? Donc ces enfants auraient grandi sans entendre aucune parole, aucune langue adressée. Et ces enfants seraient, si l'anecdote est exacte, seraient juste morts. Et en tout cas, ce sont... Voilà, je crois que l'histoire est vraie, mais je ne peux pas le garantir à 100%. En tout cas, ce sont les paroles qui disent à l'enfant la bienvenue, qui lui disent la bénédiction, fructifier et multiplier. Ce sont... les paroles de bénédiction aussi, dans la Bible en tout cas, qui vont précéder toute consigne. Et d'ailleurs, les premières paroles que nous adressons à notre bébé, c'est pas « commence pas à toucher aux choses », il peut pas. Donc c'est bien une parole de bénédiction qu'on lui adresse. Donc les paroles de bénédiction précèdent toute consigne, comme dans le récit biblique, la consigne du chapitre 2, j'ai commencé par là, mais elle vient après la bénédiction du chapitre 1. Et de ce fait... parce que ces paroles auront été prononcées, eh bien l'enfant saura qu'il est aimé, enfin saura, sentira qu'il est aimé, qu'il est voulu pour lui-même. Et combien quand ces paroles ont manqué, combien quelque chose au plus profond qui est blessé. Et quand elles sont là, et elles sont là la plupart du temps, l'enfant saura qu'il est aimé, qu'il ait voulu. Et ce sont les paroles aussi qui vont lui donner les consignes pour que cette bénédiction puisse se déployer pour vivre. Tu mangeras librement de tous les arbres. Il y a un arbre, tu n'en mangeras pas. Autrement dit, chacun de nous, nous n'existerions pas sans une parole prononcée de l'extérieur, de nous. J'entends dans ce texte qu'il y a en amont, au cœur de notre être, au plus profond, et en amont même peut-être de ce qu'on appelle la part reptilienne de notre cerveau, une parole, un appel qui est là. En termes un peu spécifiques, mais je vais employer plusieurs synonymes là. On pourrait dire que la parole elle a un caractère archétypal. Arché, c'est le commencement, ce qui est le plus originaire, structurant. La parole, c'est la base, est à la base de notre identité humaine. Quelqu'un nous nomme. Advenir à l'existence, c'est être nommé et vivre, c'est vivre de par une parole et devant une parole. Voilà ce que dit le récit biblique, je crois. Et puis je nous rapporte à notre expérience, peut-être pour plusieurs d'entre nous, mais quel soulagement quand enfin, après des semaines, après des mois, on est allé chez le médecin, et le médecin ne savait pas ce qu'on avait. Et on avait des choses qui se passaient, et on ne savait pas ce que c'était. Quel soulagement quand enfin cette maladie, elle est identifiée, elle a un nom, elle est répertoriée dans le guide vital ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, cette maladie trouve un nom. Ça ne change pas grand-chose au niveau de ce qu'on ressent, enfin au niveau des symptômes, on est toujours malade. Mais il y a quelque chose qui se fait quand on entend enfin, oui, on sait ce que c'est. Et voilà, la question s'est posée avec le Covid, sans doute, il y a quelques mois, maintenant. Nous tissons encore le monde aujourd'hui par nos mots. Et en ce moment même, je vous emmène en voyage, enfin j'essaie, au travers de mots. Et c'est avec des mots que vous chercherez, ou pas, à donner suite aux mots que je prononce, ou aux mots que l'un autre prononcera, en disant, par exemple, tu te rends compte, il m'a dit ça à la fin du culte. Alors, c'est par la parole que les parents, que les autres êtres humains nous adressent à leur tour la vocation à vivre. C'est ce qui se passe à l'origine de la création, et pour nous. On fait quoi avec ça? Je voudrais dire qu'une parole, ce n'est pas que du vent. Il y a quelque chose de structurant qui est lié à la parole, qui se dit en parole. Nous ne saurions pas vivre sans parole. Et même quand on est muet, on se dit la parole autrement. Il faut bien communiquer. Et je suis frappé de voir que Jésus nous y rend sensibles. Il nous le rappelle quand il est venu à notre rencontre et qu'à son tour, lui adresse sa parole. Et celle que je vais vous lire dans l'évangile de Matthieu, en tout cas, c'est la deuxième parole que nous l'entendons prononcer. Il aura dit préalablement une parole à Jean-Baptiste, mais là, la première fois que nous entendons Jésus parler plus largement qu'à Jean-Baptiste, enfin, il a un auditoire réduit, c'est le diable. Mais bon. Jésus dit la chose suivante au diable, qui lui propose une parole. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. On pourrait traduire, j'y reviendrai peut-être la prochaine fois, il n'y a pas que la matérialité dans la vie, il n'y a pas que la bouffe, il n'y a pas que le pain, il n'y a pas que le matériel. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. À l'époque de l'inflation verbale, où nous sommes envahis, en tout cas c'est mon regard, nous sommes envahis de mots, nous sommes envahis de sons, grâce aux médias multiples et variés, choisis, des médias, des mots, des sons qui sont choisis, quand en nous levant, nous allumons la radio, nous allumons la télé, nous allumons quelque chose, l'ordinateur, le portable, si tant est qu'il ait été éteint, pour recevoir des paroles, donc des paroles choisies, enfin... Les paroles ne sont pas forcément choisies, mais nous choisissons de nous rendre disponibles à ces paroles. Ou bien des paroles non choisies, quand nous sommes dans certaines salles d'attente, au supermarché. Aujourd'hui, où nous entendons tant de mots, tant de sons, tant et tant de mots, tant et tant de sons. Je crois que c'est un enjeu que celui du choix des paroles auxquelles nous prêtons l'oreille. Et j'ai envie de nous rappeler que c'est une question aussi qui est originaire. Elle habite peut-être ce qu'il y a de reptilien aussi dans notre cerveau, mais je fais référence là à un autre reptile. Chapitre 3 de Genèse. Le serpent dit à la femme, « Quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » L'année scolaire, l'année ecclésiale, si on considère ce jour comme son... l'année scolaire, l'année ecclésiale, donc si aujourd'hui c'est son ouverture, eh bien je l'ouvre ainsi, par une parole, par un commentaire de la parole biblique, la parole que les auteurs bibliques considèrent comme la parole de Dieu. Celle qui est aux yeux de Jésus, il le dit, comme ce qui nous donne la vie. Bien plus profondément que la parole que nous nous adressons les uns aux autres comme êtres humains. Et si celle que nous nous adressons les uns aux autres comme êtres humains joue déjà un rôle essentiel dans notre structuration, à combien plus forte raison ce doit être vrai de la parole avec une majuscule. J'ouvre presque une parenthèse, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, mais j'en suis venu, je suis heureux d'en être venu là, au fil des années à considérer cette prise de parole qui est la prédication en l'occurrence, ce commentaire de la parole, à résister à ce sentiment d'embarras qui m'a parfois habité, sur quoi est-ce que je viens pouvoir prêcher dimanche. Et c'est vrai que c'est, une fois que je le sais, ça va déjà mieux. Et puis bon, voilà, c'est pas toujours facile, etc. Donc, sentiment d'embarras, j'en suis venu à considérer cette prise de parole, j'essaie de la voir en tout cas, vivre cette situation comme un instant de grâce qui m'est faite. Grâce déjà de votre confiance en écoutant. Ça tient aussi à la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Mais grâce aussi, finalement, en me disant que si c'est cette parole biblique qui nous donne vie, mon Dieu, mais je me sens ému comme personne qui essaie de la commenter, mais qui suis-je, moi, pour commenter la parole de Dieu? Écoutez tous, nous sommes un peu dans cette situation-là, quand nous en parlons, ou quand nous nous mettons à l'écoute de cette parole, écoutez et éventuellement commentez la parole de vie, la parole qui a donné vie à l'homme, la parole qui nous donne vie en Jésus-Christ. Mais que nous voilà associés, mes frères et sœurs, à des réalités mais qui nous dépassent. En tout cas, pour chacun d'entre nous, dans notre vie individuelle, dans notre vie collective, que nous ayons ou pas à prêcher, commenter l'Écriture, peu importe. L'invitation est adressée à tous dans la lettre aux Colossiens. Que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Le texte devait dire parmi vous, mais Paul s'adresse aux chrétiens et j'ai envie de l'entendre pour nous tous. Que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Qu'elle nous informe. Qu'elle nous forme. Qu'elle devienne ou qu'elle soit encore davantage notre encre. Au point qu'elle nous soit, pour nous chacun personnellement, ce qu'elle est en vérité, c'est-à-dire un appel à la vie, parole de vie, qui donne la vie et qui donne la vraie vie. Je vous invite à un moment juste de silence.